Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre séminaire Ce que patrimoine veut dire. Après nos deux dernières séances qui portaient sur le patrimoine du Gabon et de l'Italie, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anne-Valérie Schweyer pour une séance sur le patrimoine au Vietnam qu'elle a intitulée Le patrimoine au Vietnam, une conception biaisée. Anne-Valérie Schweyer, vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice du Centre de l'Asie du Sud-Est rattaché au CNRS. Vous êtes diplômée en histoire ancienne, histoire de l'art et philologie classique et indologie. Vous êtes spécialisée dans l'histoire et l'épigraphie du Kampa au Vietnam. Vous enseignez également la civilisation et la langue, alors comment dit-on, Cham ou Cam?
Tiam.
Ok, à l'INALCO depuis 2012, et vous donnez régulièrement des conférences à la School of Oriental and African Studies à Londres. Vous êtes l'auteur de Ancient Vietnam History, Art and Archaeology, ainsi que de nombreux articles dans des revues spécialisées. Vous conduisez plusieurs projets de recherche au Centre Vietnam. Et vous êtes à la tête d'un projet ANR destiné à établir des programmes de lecture automatique des inscriptions et des manuscrits Siam du 7e au 18e siècle. Je vous laisse la parole pour environ 1 heure et nous conservons les questions pour la fin de la séance. Vous pourrez écrire vos questions dans l'espace de discussion en bas que je transmettrai oralement à Madame Schweyer. Je vous laisse la parole. Merci.
Oui, moi, je ne vois pas les questions, donc il faudra me les transmettre.
Je vous les transmettrai.
Donc, on va partir au Vietnam. Alors, je crois qu'il va falloir enlever nos visages parce que l'écran va être difficile à voir. J'ai mis à gauche le cadre géographique. Donc, le Vietnam est un pays tout en longueur. J'ai encadré en noir trois zones de civilisation qui ont marqué le pays. Tout au sud, dans le delta du Mékong, c'est le pays Khmer pré-angkorien. Qui a été très actif au début de l'ère chrétienne jusqu'au 7e, 8e siècle. Tout à fait au nord, on est autour de la capitale actuelle qui est Hanoï et on est avec une population qui a émigré du sud de la Chine à date relativement ancienne, une région qui a été occupée donc par des Viet, c'est ce qui a donné le nom Vietnam aujourd'hui, mais c'est qui n'existait pas aux temps anciens. Ces Viettes ont une culture extrêmement, comment dire, marquée par l'empreinte chinoise. Et alors que le pays pré-angkorien dans le sud, dans le delta du Mékong, était très marqué par une empreinte des pays hindouisés, donc avec des cultures comment dire, avec des cultures religieuses qui sont shivaïtes, qui sont vishnouites et qui peuvent être bouddhistes également. Et le long ovale au centre, on est sur le Tiampa, justement, une civilisation qui a commencé autour de l'ère chrétienne, qui s'est installée dans des petites vallées. Donc le long, on voit, j'espère que le relief ressort, on voit en fait que ce sont en fait des petits royaumes qui se sont égrenés comme des perles le long de la côte, mais qui ne se sont pas implantés à l'intérieur des terres. Donc une civilisation qui a été très active jusqu'au 15e siècle, qui ensuite a été refoulée vers le sud et qui n'existe plus aujourd'hui que dans deux provinces, principalement du sud. J'ai mis à droite une carte administrative, pas parce que c'est important pour comprendre le paysage, mais parce que vous allez voir que l'empreinte par province est quelque chose d'extrêmement important au Vietnam. Je me suis permis d'encadrer en rouge les villes principales dont je vais parler, c'est-à-dire au nord la capitale Hanoï, au sud la capitale anciennement Saïgon qui aujourd'hui s'appelle Ho Chi Minh-ville, qui est une capitale économique mais extrêmement développée, et au centre le rectangle le plus au nord c'est autour de la capitale des Nguyen qui s'appelle Hué. Et l'autre rectangle, c'est autour d'une ville très importante qui s'appelle Da Nang. Ah, et j'arrive pas à passer au suivant. Si, voilà. On va parler de quoi? Alors, une chose très importante, j'ai pris une carte qui est assez rigolote, mais qui n'est pas vraiment exacte, mais peu importe. C'est pour expliquer que le Vietnam, c'est un paysage ethnique extrêmement varié et coloré, avec une ethnie majoritaire qui s'appelle les Kinh ou les Viet, donc qui viennent de ce berceau du nord du pays. Et 53 ethnies minoritaires qui sont aussi bien des Mon Khmer, donc des Austro-Asiatiques avec des langues qui viennent du côté continental, que des groupes qu'on appelle les Austronésiens, donc avec des langues qui sont parentes du malais, de l'indonésien contemporain ou ce genre de langue. Pourquoi insister sur les ethnies en général? C'est parce que cette ethnie majoritaire venue du nord représente presque 90% de la population. Alors, j'ai pas le chiffre exact de la population du Vietnam, mais on est entre 90 et 100 millions d'habitants, avec une population dont la moitié à peu près est inférieure à 20 ans. Et les 53 ethnies minoritaires, donc, qui sont extrêmement importantes, mais qui forment une minorité, est de 13%. Donc, une histoire un petit peu compliquée parce qu'en fait, c'est au centre du Vietnam, entre ce nord sinisé retenu par les Viet et les deux grandes bulles de civilisation dont j'ai parlé, qui sont des pays donc hindouisés ou indianisés, comme on veut. Donc, ce sont les trois gros pôles qui ont connu l'écriture, qui donc ont développé des archives, ont développé une histoire au sens où c'est écrit, alors que la majorité des autres ethnies minoritaires sont des ethnies sans écriture, avec tradition orale. Alors, on est sur un déséquilibre de fonctionnement, c'est-à-dire que les Viet, les Kin, oh, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, les Viet, les Kin représentent presque 90% de la population et sont appelés directement par les autorités à jouer un rôle central dans la protection et le développement du pays. Alors, j'ai mis souvent entre guillemets des citations officielles en fait données par le gouvernement vietnamien. Je précise tout de suite que le Vietnam est donc un pays autoritaire, pour ne pas dire totalitaire, c'est-à-dire que il y a certains présidents, il y a certains premiers ministres. Ça s'appelle certes la République socialiste du Vietnam, mais les ordres et la politique émanent du seul parti politique autorisé, qui est le Parti communiste du Vietnam. Donc, une population déséquilibrée. Et donc, je vais essayer de voir comment on conçoit la notion de patrimoine international quand on est au Vietnam. Donc, je me suis basée au départ sur le patrimoine de l'UNESCO, tel que c'était reconnu. Alors, je n'ai pas pu couper correctement l'image dans la mesure où le Vietnam ne faisant que cette partie-là, il faut exclure ce qui est dans le Cambodge là. Donc, on a des biens qui sont culturels ou naturels. Dans les biens culturels, on a une série comment dire, de sites archéologiques. Donc, il y en a cinq, je vais les montrer juste après. Et puis, des paysages, en fait. Donc, il n'y a pas beaucoup, mais il y a un petit peu de patrimoine matériel de l'humanité. Donc, les sites en question sont des sites du nord ou du centre qui sont, que j'ai mis en bas, j'aurais dû les mettre en haut puisque c'était au nord, mais donc peu importe, qui sont donc très Kin, très Viet. Et en haut à gauche, vous avez le site archéologique d'Etiam, le grand site archéologique de Missone. Et en haut à droite, vous avez une ville de marchands qui s'est développée au XVIIe, XVIIIe siècle, qui est autour de Da Nang. Donc, si vous vous souvenez de la carte, c'est vers le centre du pays et qui est un site à la fois historique et extrêmement touristique. Dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, on a donc 14 entrées entre 2008 et 2021. Je ne les développe pas parce que je vais en parler un tout petit peu après de manière à m'appuyer dessus. Des choses qui sont mises très en avant par les autorités vietnamiennes. J'insiste sur l'image qu'on voit en haut à gauche où en fait c'est une mise en scène qui est faite par l'État, c'est-à-dire on voit les militaires, on voit les officiels. C'est pas de la, ce ne sont pas des cérémonies spontanées. c'est souvent très très téléguidé par les autorités. On a aussi donc dans le patrimoine les chants alternés, donc une image avec ces petites filles qui chantent et qui échangent, ou des espaces dans les hauts plateaux du centre. C'est une notion importante parce que toute la plupart des ethnies sont dans les montagnes, et donc la mise en valeur de ces espaces de culture sont à noter quand même. On a aussi dans la partie mémoire du monde de l'UNESCO quatre données qui sont, vous le notez sur les images, je ne sais pas si c'est très clair de votre côté, qui ne sont que des archives en synoviet, donc en hanom, qui donc font rentrer la mémoire, enfin associer la mémoire culturelle et de la civilisation du Vietnam en relation avec cette civilisation du Nord, très influencée par la Chine, tant dans l'écriture que dans les modes de fonctionnement, que dans les religions qui sont soit taoïstes, confucianistes, en tout cas extrêmement influencées. Même quand on parle de bouddhisme, je fais une toute petite parenthèse, même quand on parle de bouddhisme, le bouddhisme qui est pratiqué, qui est majoritaire dans le nord du Vietnam et celui qui est venu par la route de l'Inde continentale, donc qui est passé par la Chine, tandis que le bouddhisme qu'on trouve vers le sud est lui passé par la route du commerce maritime et donc a été, si je puis dire, tamisé par son passage par les autres pays, les autres îles. Notable, c'est cette très récente inscription dans la liste des sauvegardes d'urgence qui est l'art de la poterie du peuple Tiam. Et donc, le peuple Tiam, c'est donc cette ancienne majorité qui est devenue une minorité maintenant, où il est dit que la poterie de cette minorité est en fait importante dans la mesure où elle représente une transmission à travers le temps, une transmission très longue, hein, puisque je vous rappelle que les Tiam sont arrivés sur les côtes du Vietnam autour du début de l'ère chrétienne, et que malgré des efforts de sauvegarde, c'est-à-dire que pendant longtemps, le gouvernement vietnamien n'a rien fait, mais depuis au moins 20 ans, ils essaient vraiment de mettre en valeur cet artisanat. Et en fait, il n'y a pas vraiment de débouché pour ce genre d'artisanat. Il n'y a aucun intérêt des jeunes pour aller fabriquer de la poterie dans les villages Tiam. Donc, on est dans le sud-est du Vietnam. Et ils en sont à être inscrits donc, dans un patrimoine immatériel en urgence. Donc, si je fais un petit peu le calcul aujourd'hui, on a 6 inscrits dans le patrimoine mondial, 14 patrimoines dans la culture immatérielle, plus la mémoire, et en face de ça, donc le pays a ses propres décomptes, eux comptent 3560 vestiges qui sont classés au niveau national et 238 trésors nationaux. Donc je vais évidemment m'atteler sur qu'est-ce que c'est qu'un trésor national, donc c'est quelque chose qui mérite une protection d'un point de vue gouvernemental, donc un patrimoine national. Donc là j'ai pris, je ne sais pas si à l'écran ça rend bien, ça fait probablement un peu brouillon, donc je me suis permis d'encadrer ce qui pour moi était le propre de mon discours. Donc dans les trésors nationaux, on a ce qu'ils appellent des reliques, c'est-à-dire des bâtiments, c'est aussi bien une pagode, donc là on est sur une pagode au bord d'un étang, ça peut être un monument qui héberge un général, donc on n'est pas sur une pagode, mais on est sur un temple, ou alors un mémorial à la mémoire du président Ho Chi Minh, donc on est sur la notion de l'intérêt de la nation. Donc, la définition même d'un trésor national, ce sont des objets qui ont une valeur exceptionnelle et qui représentent une période historique, une tendance ou quelque chose qui a marqué l'histoire du pays. On avait en 2023, donc ils rajoutent chaque année, donc chaque année il y a une liste d'objets comme ça. On arrive aujourd'hui, donc ça c'est des coupures de journaux hein, tout simplement, à 238 trésors nationaux. Un écran qui va vous sembler confus, mais je vais vous donner tout de suite la clé de lecture pour vous montrer que les trésors nationaux, ça peut être aussi bien un musée provincial, donc ce qui est entouré en rouge au milieu. Ça peut être un musée national, ça peut être un bâtiment religieux comme une pagode, ça peut être un site historique comme une citadelle, ou ça peut être des objets qui sont dans des collections privées. Et ça peut aller d'un objet préhistorique comme des outils, par exemple des outils lithiques comme on le voit à la première ligne, et à la toute dernière ligne, ça peut être un portrait du président Ho Chi Minh qui date de 1946 ou un tank qui date de 1972. Donc on est sur des objets extrêmement disparates qui sont tous considérés comme ayant une importance dans l'histoire du pays. Donc c'est un petit peu confus malgré tout parce que qu'est-ce qu'ils vont faire de ces trésors nationaux? Donc, le ministère, donc il y a toujours des édits du ministère de la Culture ou des représentants officiels pour essayer de dire, de donner les grandes inclinations de ce qu'on doit faire, en fait. Et donc, c'est une sorte de défi qu'ils se sont lancés ces dernières années en disant qu'en fait, il y a deux possibilités pour exploiter dignement ce riche patrimoine des trésors nationaux. C'est soit les laisser dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais ils sont fragilisés parce qu'ils sont à l'épreuve du temps, soit les mettre à l'abri, et dans ces cas-là, c'est un petit peu difficile d'y avoir accès, parce que personne ne peut forcément aller à un musée au travers du pays. Bon, c'est un pays très long, hein, on est sur 1500, 2000 kilomètres de côte, si on fait vraiment toute la longueur. Donc, donc, on est sur un défi de valorisation qui pose problème, bien évidemment. Et en fait, depuis 2021, ils ont décidé une nouvelle politique qui est d'essayer de mettre en valeur ces trésors nationaux en essayant de les rapatrier auprès des plus grands musées du pays. Mais à terme, et c'est quand même les trois dernières lignes qui m'intéressent, l'objectif reste de doter les localités, excusez-moi, de les localités de moyens de valoriser ces trésors. Et c'est en vertu de ces nouvelles normes qu'on a vu fleurir dans chaque chef de district de province des gigantesques musées, donc mais vraiment des bâtisses en béton assez énormes, qui pour l'instant sont vides. Donc c'est un petit peu problématique. Et surtout, essayer, ils disent, valoriser ces trésors et les mettre en lien avec les collections privées. C'est-à-dire que la notion du privé au Vietnam reste une notion qui est quand même sous contrôle du public. C'est un petit peu particulier. Donc là, je résume un tout petit peu. Ça peut être des sites, ça peut être des objets, et donc c'est quelque chose d'un petit peu ambigu, parce que ça comprend des objets dans la toute dernière décision qu'ils ont émise, il y a aussi des groupes d'objets appartenant à des particuliers. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion de trésors nationaux privés? Donc, j'ai donné deux exemples là, mais qui ne sont pas du tout à détailler. Dans un cas, ce sont des tambours de bronze qui sont vraiment des objets très anciens qui datent évidemment de l'âge du bronze, comme son nom l'indique, ou alors des céramiques qui sont relativement rares, ces céramiques émaillées blanches. La dynastie des Li, on est entre le XIe et le XIIIe siècle, donc qui sont vraiment de très, très beaux objets par ailleurs, qui sont tous des objets, mais la notion de trésor national privé rentre en ligne de compte, c'est-à-dire que le gouvernement dit c'est quand même ennuyeux parce que ces objets qui sont dans des collections privées est un énorme gaspillage de ressources culturelles pour la population puisque le public ne peut souvent pas y avoir accès. Alors qu'est-ce que va proposer le gouvernement dans ce genre de cas? C'est une diapositive un peu longue, mais il se pose évidemment la question en disant les collectionneurs y ont mis de l'argent, donc des efforts pour trouver des pièces, ils ont dépensé de l'argent. On peut comprendre que ces gens n'aient pas forcément envie de dire « je vais en faire un don général au musée », même si on les inciterait fortement à le faire, ce n'est pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Mais on essaye en fait de faire comprendre à ces propriétaires privés que l'État va prendre des, 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 va prendre des mesures de manière à coordonner une présentation, enfin une espèce de mélange entre eux. C'est certes privé, mais ça reste un bien public. Donc, il faut éveiller l'attention de la population à la valeur de ces trésors, promouvoir la valeur de ces trésors nationaux de manière à ce que petit à petit, tout le monde y ait accès. Alors, une politique privée, une politique publique, donc maintenant, un discours donc, qui est, on le voit, extrêmement consensuel. Nous sommes toutes les ethnies, donc les 54, la majoritaire plus les 53 minoritaires, sont des frères et sœurs qui vivent sous le même toit. Il y a une collaboration, une cohabitation sereine, fraternelle, une journée culturelle des ethnies au Vietnam. Enfin bon, on est sur un discours politique, on est sur une image très contrôlé, donc avec, vous noterez que c'est pas une maison, c'est une maison traditionnelle, bien sûr, sur les hauts plateaux, mais c'est une maison construite sur laquelle on voit passer le signe un petit peu de maison culturelle locale, enfin, et on vient faire des représentations. Donc là, on est sur cette fameuse culture des gongs dans les hauts plateaux. Donc c'est chaque année, je crois que c'est deux fois par an, enfin, on fait des grandes cérémonies autour de cette culture des gongs. Ou alors le dernier patrimoine immatériel qui est rentré donc dans l'UNESCO, ça a été donc une danse particulière d'un peuple du nord-ouest du Vietnam, où en fait non seulement c'est la fierté du pays, mais on incite fortement la minorité en question à prendre conscience de la responsabilité qui leur échoit de perpétuer la tradition ancestrale. C'est-à-dire que on a l'impression que sans le gouvernement, avec cette mise en perspective et surtout cette mise sur le devant de la scène grâce à cette inscription sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est le gouvernement qui donne l'impulsion à une vision, en fait. Mais est-ce que justement cette hyper présentation, en fait, de l'État n'est pas un peu trop présente? Donc c'est une question que je pose, et c'est une question qui s'est posée assez récemment, où en fait le Parti communiste vietnamien veut promouvoir à l'international donc les valeurs culturelles vietnamiennes. C'est ce qu'ils appellent le soft power culturel, et c'est clairement une stratégie. Et donc, ce que veut faire le parti politique officiel, c'est en fait la nécessité de développer l'industrie et les services culturels de manière à valoriser la force de la culture vietnamienne. Et cette force, il le relie de manière quasi en jumelage, en fait. Hein. Il relie le développement de la culture à celui du tourisme, c'est-à-dire de manière à ce que attirer les touristes pour montrer ce patrimoine culturel d'une telle richesse permette de remplir, en fait, d'en faire en soi un secteur économique de pointe. Donc, c'est deux voies parallèles, mais qu'ils ont l'intention de garder parallèles, entre culture, tourisme et économie, parce que c'est le but du jeu, en fait. C'est un petit peu enrichir un pays qui est en grande voie de développement. J'ai pris un tout petit exemple, parce que c'est un exemple extrêmement récent. Vous voyez que l'article que j'ai mis tout en bas a été publié le 12 juin 2023, donc on est sur de la renaissance culturelle. Donc, où il est dit que récemment, des fêtes traditionnelles et des rituels de fêtes, donc dans la capitale, sont progressivement relancés. Alors, pour rappel, l'histoire de Vietnam, outre les époques anciennes, est relativement assurée à partir du XXe siècle, parce qu'il y a eu la présence française et donc une période de colonisation. Et ensuite, il y a eu les guerres, donc la guerre contre la France qui s'est arrêtée en 53, les grandes guerres avec l'Amérique, donc ça qui a quand même laminé le pays. Et puis après, il y a eu la période de fermeture avec le communisme, et le pays ne se réouvre vraiment que depuis les années 85-90. Donc, à l'échelle d'un long pays de tradition comme le Vietnam, c'est relativement récent. Mais toute cette histoire mouvementée du XXe siècle a fait que beaucoup de choses du patrimoine, beaucoup de choses des traditions ont été perdues et qu'on en est même dans la capitale à relancer progressivement, comme ils le disent eux-mêmes. Donc, en fait, ils ont promulgué des résolutions récentes en disant que la culture, la tradition et donc le fait de faire venir des touristes est à l'horizon. Donc, actuellement, on voudrait qu'à l'horizon 2030, ça corresponde à 8% du PIB et on voudrait que dans 20 ans, par exemple, ça représente environ 10% du PIB. Une image de la dernière cérémonie qui a eu lieu, donc il y a très très peu de temps. Ça semble assez sinisé parce que la partie nord, mais la partie nord du Vietnam est très influencée par la culture de la Chine, mais ça reste quand même des traditions qui sont vraiment sino-viet, c'est-à-dire vietnamiennes. Hein, c'est pas que voilà. Et alors là, je vais passer un petit moment qui va être un petit peu indigeste, mais je vais vraiment le prémâcher pour vous. Et donc voilà ce qui est paru en 2020. J'ai mis des guillemets parce que c'est moi qui appelais ça les 10 commandements. Eux, ils appellent ça les 10 critères de développement culturel. Donc qu'est-ce qu'on veut favoriser entre 2020 et 2030 de manière à ce que la culture du pays associée au développement et à l'ouverture du pays soit mise en valeur? Alors, les 5 premiers, c'est très simple. C'est des ordres qui partent des ministères. En deuxièmement, une conscience à un niveau provincial et à un niveau du district que chacun doit s'impliquer, chacun doit avoir une maison culturelle. De la même manière, au niveau des provinces et des unités, il faut des bibliothèques, il faut des musées. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, des constructions de musées gigantesques, ils sont en train de les construire, mais ils sont encore vides. Ensuite, il y a 2 commandements, enfin deux directions qui sont liées à l'UNESCO, où en fait, on veut faire reconnaître enfin, du patrimoine culturel, matériel et immatériel encore plus, encore 5 de plus d'ici 2030, ce qui est quand même beaucoup de travail, mine de rien, et aussi continuer cette liste de patrimoine à un niveau national, donc les trésors nationaux. Vous noterez quand même qu'on est sur des chiffres très importants, hein, 95 à 100%, 65 à 70%. Enfin bon, on est vraiment sur des chiffres extrêmement forts. Ensuite, un sixième point qui est relativement important, c'est l'ouverture dans les zones qui sont montagneuses, d'où sont les minorités, essayer d'améliorer la vie culturelle des populations et en particulier les traditions des minorités ethniques de moins de 10 000 personnes. Donc, vous voyez bien qu'il y a des minorités qui sont vraiment toutes petites. Donc, ensuite, on parle de littérature, on parle de recherche littéraire, on parle de faire. Ils ont des ordres, c'est-à-dire qu'il faut faire entre 50 et 55 et 60 films par an, il faut faire des films scientifiques. Et il faut faire en sorte que l'industrie culturelle, donc c'est bien le mot qui finalement va revenir, contribue à 7% du produit intérieur brut. Alors, derrière ces normes et derrière le côté un peu théorique, je vais avancer pas très vite en fait, parce que vous allez voir que je vais essayer d'en parler un petit peu, sur qu'est-ce que ça donne dans les musées. Donc, quels sont les principaux musées? Nous allons voir des musées d'histoire, des musées d'ethnographie et un musée d'art, qui est d'ailleurs le premier, qui est le plus ancien musée d'art du Vietnam. Alors, je vais essayer de pousser ça. Voilà. Donc, une architecture coloniale typique. C'est le musée donc de Da Nang, le musée de la sculpture Thiam, qui a été ouvert en 1915, qui est important parce que les Français ont essayé, ont reconnu que la civilisation Thiam a été très importante autrefois, ont fait énormément de fouilles dans le centre Vietnam pour en sortir, alors comme on le faisait au début du XXe siècle, c'est-à-dire on sortait des objets, mais on n'était pas très bon sur la stratigraphie et les vraies fouilles. Mais en tout cas, ils ont sorti des milliers de sculptures. Ils les ont mis dans les musées, donc dans certains cas, au grand dam des habitants, parce que ces sculptures avaient un rôle religieux, culturel et servaient de ciment aux communautés ou aux villages. Dans d'autres cas, ben, on peut leur dire merci parce que quand il y a eu des bombardements américains qui ont détruit des sites complets, eh ben, heureusement qu'on a eu le musée pour sauvegarder certaines sculptures. En tout cas, un premier musée qui a mis en valeur la sculpture, qui a été autour de la sculpture Tiam. Donc, j'insiste un tout petit peu autour de cette région parce que ça fait en fait autour de Danang, donc le point rouge ici, autour du site de Missonne dont on a parlé. À l'embouchure du fleuve, il y a, on en a parlé à propos de l'UNESCO, hein. Autour de l'embouchure de ce fleuve, on a la ville de Hoi An, donc on a aussi parlé à propos de l'UNESCO. Et donc ça commence à créer, enfin ça commence pas, non, maintenant c'est hyper développé, ça commence à créer tout un circuit touristique dans le centre Vietnam qui attire chaque année des millions de touristes, mais vraiment, enfin, pendant la pandémie, bien évidemment, et ça permet de faire vivre toute une population. Donc en fait, le musée, les sites classés, la mise en valeur de ce patrimoine, ça a permis en fait, et ça permet sur le présent et le futur, de faire vivre un patrimoine. Le deuxième musée dont je veux parler, on est encore sur une architecture typiquement coloniale. Il a été ouvert en 1929, donc il est dans le Saïgon actuel, à côté du zoo, du jardin zoologique. Donc c'est un musée d'histoire dans lequel on voit dans des salles un parcours historique, donc des origines. Il y a des salles de préhistoire jusqu'au Vietnam moderne, avec la mise une salle une très très belle salle qu'ils ont mis en valeur il y a quelques années sur les Tiam, une magnifique salle sur la culture khmère pré-angkorienne dans le delta du Mékong, et ensuite on passe sur le 16e, 15e, 16e siècle, enfin bon, et on va jusqu'à l'époque contemporaine. Et là, un musée qui a ouvert en 1929, le très très beau musée d'histoire de Hanoï, donc encore une architecture coloniale, ouvert en 1932. Donc là, on a deux grandes catégories dans ce musée, c'est la partie vietnamienne et des salles Tiam. Et c'est à peu près tout, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de minorité, il n'y a pas, enfin bon. Ils ont axé sur l'histoire, les grandes normes de l'histoire dans cette époque. Un musée extrêmement intéressant à voir à Hanoï, un musée qui a été ouvert en 1987, donc au moment de l'ouverture, qui était un musée assez propagande. Donc on n'est pas sur un musée de la femme, on est un musée sur un musée de la femme du Vietnam. Il a été entièrement rénové en 2010. Donc avec une architecture beaucoup plus moderne, enfin en tout cas à l'intérieur, il y a de très très belles salles autour de trois thèmes: les femmes dans la famille, les femmes dans l'histoire et les modes féminines. Les femmes dans l'histoire, les figures féminines dans l'histoire du Vietnam sont extrêmement fortes, et ils ont su les mettre en valeur dans un musée qui est vraiment intéressant parce que c'est un musée à la fois culturel et historique, qui en fait est devenu un musée de genre en quelque sorte. Et j'avoue que même en Occident, moi j'ai jamais vu un musée aussi intéressant que celui-ci parce que il mélange en fait la société, les traditions en même temps. Enfin, il est relativement intéressant. Et ils ont eu un parti pris d'une reconnaissance en fait de la femme dans la société. Enfin, non, sans aucune difficulté parce que la femme vietnamienne tient une place très importante dans la société. On va parler d'un musée très particulier, qui est le musée d'ethnographie à Hanoï. Donc, toujours les 54 groupes ethniques, toujours la volonté, dès l'ouverture, donc en 87 du pays, il a été question de créer donc ce nouveau musée. Il a mis très longtemps, hein, il a été pensé autour de 1986-87, dans le cadre de cette réforme économique qui s'appelle le Doi Moi, c'est-à-dire l'ouverture économique, la réforme du Vietnam. En fait, il n'a ouvert qu'en 1987, donc il ressemble à ça. J'ai mis à droite un modèle de ce qu'on appelle les tambours de Dong Son, donc, parce qu'en fait, ils ont volontairement donné cette forme de tambour, c'est-à-dire là, on est sur le corps et là, on est sur la caisse de résonance tout en hauteur, donc ils ont voulu respecter la forme d'un des objets symboliques du Vietnam. Donc, un musée qui a été conçu grâce à un projet de coopération franco-vietnamien, inauguré par le président Jacques Chirac en 97, mais entièrement, alors même si la base de l'architecture est faite par un architecte local, toute la conception, toute la scénographie et toute la muséographie ont été faites par des architectes et une conservatrice française, en particulier Christine Hémet, qui a été la grande instigatrice de ce musée. Donc un musée avec une partie intérieure qui met des salles en fait par ethnie. Donc ce qu'ils appellent chaque communauté vietnamienne a été mise en avant. Et à l'extérieur, un superbe jardin dans lequel ils sont allés démonter des maisons traditionnelles de pas toutes les ethnies. Il n'y a pas 54 maisons, mais il y en a au moins une trentaine, pour montrer les différents habitats. Donc, c'est un musée dans lequel on se promène, on rentre dans les maisons. Quand c'est des maisons en hauteur, et ben on grimpe dans les maisons. Donc, la volonté a été alors c'est assez minimaliste, c'est-à-dire qu'en fait ils ont constitué des collections en essayant de dire bon bah chacun on va représenter la pêche pour chacune des ethnies, on va représenter le costume traditionnel, donc c'était assez formaté. Mais c'est un musée passionnant parce que ils ont pensé et voulu dès le départ montrer que le Vietnam c'est pas une ethnie majoritaire. Alors un exemple magnifique des grands musées, quoi, des gigantesques musées qui sont en train de construire. Celui-là, il date de 2011, il est sur les hauts plateaux et il est voué à la découverte de l'histoire et de la culture de ces peuples des hauts plateaux du centre Vietnam. Donc celui-là, 2011, il est conçu dans toute sa splendeur, si je puis me permettre. Donc ils ont ramassé 12 000 objets. Ils en ont présenté environ 450, mais en fait, il y a des thématiques, il y a des expositions temporaires, donc il y en a au moins 1000 qui bougent. Et c'est toujours la conservatrice qui était impliquée dans le musée de Hanoï qui s'en est occupée, avec la grosse différence qu'en 2011, les conservateurs n'ont pas subi de pression dans leur choix muséographique. C'est-à-dire qu'on leur a laissé la possibilité de présenter les ethnies telles qu'ils les vivent, et on voit même paraître une salle consacrée sur les migrants viet sur les hauts plateaux, c'est-à-dire qu'en fait ces hauts plateaux à date ancienne et relativement récente n'étaient peuplés que par des ethnies minoritaires sans écriture, donc avec une tradition orale, avec des rituels, avec le sacrifice du buffle qui joue un rôle important, l'alcool avec le partage des jars d'alcool, une politique assez désastreuse pendant la période 1975-1990, d'une volonté d'implanter de force des colons venant du Nord Vietnam, donc des Kin, sur les hauts plateaux. Et la salle dit clairement, ça n'a pas été facile, ni pour les Viet eux-mêmes, ni pour les ethnies minoritaires qui les ont accueillis. Et ils ont eu la possibilité de le dire. C'est-à-dire que grâce à ce musée, on assiste à une nette ouverture de la culture sur ces hauts plateaux qui pendant longtemps ont été d'une sécurité très très relative. Il y a eu encore des émeutes au début des années 2000, 2001, 2004, et la politique a été d'oublier ça de manière à mettre en avant une sécurité qui est maintenant acquise, qui est maintenant stable, et une ouverture pour que les touristes, et les touristes locaux aussi, hein, les Vietnamiens eux-mêmes vont dans les hauts plateaux pour aller visiter ce musée. Et alors, je voudrais faire un focus sur une expérience à laquelle j'ai participé, on est autour de Hue, et donc certaines provinces, donc là, on a vu des musées qui étaient à Hanoï, on a vu autour d'Ho Chi Minh, on a vu le musée de Da Nang, et on a vu par ici vers les hauts plateaux le musée de Dalat. Et à Hue, Hue est l'ancienne capitale de la dernière dynastie impériale vietnamienne, donc les Nguyen, une province qui est restée très conservatrice, qui est très axée sur comment dire, la cour sur de la province de Hue viennent les plus belles filles du Vietnam parce que c'est là qu'étaient amenées les concubines et que donc il y a toute une tradition. Or, cette région n'est pas riche que depuis le XVIe siècle, bien évidemment. Elle est richissime en vestiges proto-historiques, en vestiges Tiam. Et aussi, il y a des petits musées locaux donc, sur lesquels ont été conservés donc, des objets trouvés en fouilles, des inscriptions anciennes, des sculptures. Il y a des petites collections privées, enfin des petites, pas toutes, il y en a des grosses d'ailleurs, qui se sont établies. Et donc, l'idée venue d'en haut, pour le coup, l'idée venue d'en haut. Donc là, je vais vous présenter rapidement les différents petits musées. Donc le musée de la Révolution en haut, dit de la Révolution parce que y a des... Mais en l'occurrence, quand vous regardez l'intérieur, on est dans une architecture vietnamienne hyper classique. Et puis on est dans un musée. Là, vous avez la seule salle du musée. Hein, on est quand même pas très richissime. Il y a des très belles choses, mais c'est quand même pas grand-chose. Le musée des Antiquités royales, qui lui est un musée qui est une ancienne bibliothèque royale. Ils avaient jusqu'en 2013 donc des objets Tiam massés comme ça dans un dépôt. On va garder dans la tête la diapo à droite parce que je vais en parler juste après. On avait ce qu'ils appelaient le musée d'université, c'est-à-dire une salle de classe en quelque sorte dans la fac, dans lequel ils ont mis tous les objets que quand on emmenait les étudiants sur le terrain, on trouvait des sculptures, on les ramassait puis on les gardait. Et donc ça a fini par faire un musée intéressant. Il y avait le musée de la ville de la même manière, on faisait un trou à huée, on trouvait des objets, hop, et on le gardait. Donc on en est à 4 musées qui ont tous des pièces intéressantes mais à des degrés différents. Et donc, la volonté, venant d'en haut et répercutée sur un musée provincial, de dire à Christine Hémet, vous avez conçu ce magnifique musée dans les Hauts Plateaux qui a ouvert en 2011, est-ce que vous pouvez nous aider à préparer un projet qui inclurait les différents dépôts, qui permettrait de mettre en valeur tout notre passé, du plus ancien jusqu'au plus moderne. Et elle s'est heurtée à un double obstacle. Un, le refus des 4 petits musées qu'on vient de voir de se départir de leur trésor et des méandres administratifs absolument insurmontables qui montraient qu'en fait, on ne voulait pas, on voulait mettre en avant la citadelle d'Nguyen, même s'il y a eu l'offensive du Tet qui a tout détruit et qu'on est en train de reconstruire. Mais, donc, en fait, ça a été un échec total. Et finalement, le musée des Antiquités royales, donc je vais revenir un tout petit peu en arrière, a fini par craquer et a construit dans le fond de son jardin de l'autre côté une salle pour mettre en valeur ses sculptures Tiam. Donc ça s'appelle le musée Tiam de Hue en quelque sorte, sachant que ce musée Tiam est un peu figé parce que ce sont les sculptures qui avaient été déposées par les Français jusqu'en 1950, alors que les autres petits musées, eux, s'enrichissent de trouvailles contemporaines. Donc, c'est un musée qui va végéter, en quelque sorte, dans la mesure où il n'y a pas d'acquisition et que y a le musée de l'université n'est pas ouvert au public, et puis que les autres… Donc, un cas d'échec où, en fait, on s'aperçoit que quand, même s'il y a des ordres venus d'en haut, quand à un niveau régional, provincial, on ne veut pas, eh ben, ça ne se fait pas, tout simplement. Et donc, ça va être mes diapositives de finale, si bien on aura le temps de discuter. Ça va être dire qu'en fait, la politique culturelle au Vietnam dépend du contexte, c'est-à-dire qu'à un niveau national, on veut construire l'image d'un Vietnam convivial, attractif, avec beaucoup de culture, ce qui est le cas, hein, il n'y a pas de problème, avec un budget de la culture qui augmente, alors qui au début était axé sur Hanoï, sur les grandes villes, mais maintenant, à un niveau provincial, ils ont tous reçu de l'argent pour construire ces fameux musées. Mais la politique, ce que font les politiques de la capitale, en fait, n'a pas forcément d'impact à un niveau local. Parce que les politiques ne voient pas les minorités, en quelque sorte. Eux restent dans leur grande ville et ils ont donné des ordres pour développer le pays depuis les années 90, principalement, en fait, sur les grandes villes. Et les petites minorités, celles qui étaient vraiment perdues dans les montagnes, Ça n'est que depuis très très peu d'années qu'ils ont accès à des routes, qu'ils ont des hôpitaux, qu'on leur a construit des écoles. Et c'était l'urgence, bien évidemment. Et donc, en fait, que le côté culturel n'a pas encore touché certaines provinces. Et donc, pour comprendre la politique culturelle du Vietnam, il faut, j'aurais dû mettre « il faudrait », parce que c'est évidemment ce que je n'ai pas fait, il faut étudier province après province, et il faut comprendre leur rapport à l'histoire locale et l'histoire du pays mélangé. Donc, je donne trois exemples. La province de Gia Lai, donc là, on est sur les hauts plateaux, à côté du Da Lac, là où j'ai montré le musée tout à l'heure. Donc, cette province-là était très, très impliquée, donc sous contrôle, en fait, du Parti communiste, qui la direction a changé depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, il y a une énorme ouverture à la culture, avec la mise en valeur, donc cette fameuse culture des gongs, là où je vais montrer des images juste après, qui a mis en valeur les minorités, les deux plus grandes de la région étant les Banars et les Gia Lai, mais une ouverture. En revanche, juste à côté, donc en bord de mer, on a la province de Binh Dinh, où là, l'ouverture culturelle ne fonctionne pas. Pourtant, ils ont un passé, une culture extrêmement riche. En particulier, ils ont des traces préhistoriques et des tours du Vietnam, des Thiam richissimes, en fait, ont une histoire. Mais une culture locale qui est sous une influence politique extrêmement forte, qui fait qu'on s'est replié et on n'investit pas, en fait, sur la mise en valeur à un niveau provincial. On avait essayé avec des collègues de Hanoï de monter un projet sur les Thiam localement. On s'est heurté à un mur, mais littéralement. Donc, pour l'instant, ils ont mis en valeur ce qu'ils avaient dans les musées, mais il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de volonté politique. C'est une région qui a connu des heurts politiques assez importants au XVIIIe siècle en particulier, puis on a l'impression que ça s'est un petit peu figé. On a vu tout à l'heure donc la province de Quang Nam Da Nang, où là on est en ouverture parce qu'on veut absolument que culture et tourisme riment avec économie, et donc ça marche très très bien. Et ma dernière petite diapositive, c'est pour rester sur les deux cultures dont j'ai quand même le plus souvent parlé, cette culture des gongs sur les hauts plateaux où on réactive, en fait, c'est pas vraiment qu'on réactive, mais on fait mieux connaître, en fait, les festivités, et on les laisse s'organiser de manière libre. Et à droite, c'est une photo que j'ai prise l'été dernier, c'est une cérémonie Thiam qui a lieu juste au pied des tours anciennes. Donc là, c'est un temple qui date du 7e siècle, sauf erreur. Et on refait des cérémonies qui avaient été interdites pendant la période communiste. On refait des cérémonies extrêmement actives. Alors, on appelle ça des festivals au Vietnam. Donc, on réactive des festivals religieux, culturels. Alors, la culture est très liée chez les Thiam à la religion. J'imagine que dans la culture des Dong, on est sur de la religion animiste, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur la culture locale et on constate que, en fait, le patrimoine culturel, il est en train de se faire au Vietnam. Et donc, c'est l'image que j'espérais vous présenter. Et du coup, on va avoir beaucoup de temps pour les questions. Qu'est-ce que je fais, Émilie? Il faut que j'arrête le PowerPoint?
Vous pouvez laisser, comme ça on profitera encore de ces belles images.
Voilà, je vais laisser des images et je peux revenir en arrière en fonction des questions. Alors, j'ai peut-être parlé trop vite, donc du coup j'ai fait un peu vite, mais je me suis
non, dit pas que du tout.
Ça permettait de laisser des questions.
Oui, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention très riche, justement, parce qu'on se rend compte de la richesse et de la diversité du patrimoine du Vietnam et puis des différentes cultures qui composent ce pays. Je regarde si dans l'espace de discussion, donc je vois des questions que je vais vous lire.
Oui.
L'inscription sur la liste du patrimoine mondial et le classement au trésor national ont-ils figé certains éléments du patrimoine, remettant peut-être en cause leur authenticité?
Oui. alors, oui et non, c'est-à-dire figé, oui, parce que ça donne une image sous vitrine. Pour l'authenticité, comment dire, je dirais pas que dans les dossiers qu'ils ont présentés à l'UNESCO, pardon, ça a été biaisé. En fait, ils ont joué le jeu de montrer en quoi c'était un aspect de la culture du pays. Donc, par contre, ça risque sur le long terme de figer, oui, très probablement.
Oui. Oui, parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on constate après un classement.
Oui, c'est ça. Sur le long terme, je vois pour Missonne qui a été le grand sanctuaire Thiam. Donc ça fait déjà pas mal d'années. Du coup, ça a été bétonné. Enfin, ils en ont fait un sanctuaire mort alors que c'était censé être un sanctuaire vivant, quoi. Oui. Je dois dire. D'accord. Malheureusement, c'est pas faux.
Alors, une autre question, quel est l'impact du tourisme, s'il s'est développé, donc sur la préservation du patrimoine? Est-ce que ça s'est plutôt dégradé ou au contraire, est-ce que ça permet de mieux le préserver pour sa mise en valeur touristique?
Eh bien, paradoxalement, ça a permis de mieux le mettre en valeur parce que ça a fait pression sur les autorités politiques. C'est-à-dire qu'au début, moi, ça fait 25 ans que je vais au Vietnam. Dans les années 95-97, je commençais à travailler sur les Thiam et je me gardais bien de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'y allais discrètement. Je ne pouvais pratiquement pas contacter un prêtre, comme vous le voyez là, le prêtre habillé en blanc, pour lui dire et ça, qu'est-ce que dans ton rituel, tu dis ça. C'était pas possible. Et paradoxalement, le fait que les touristes soient venus au Vietnam, c'est pas forcément du tourisme de grande quantité. C'est-à-dire que en fait, il y a du tourisme sur des plages, il y a des gens qui ne vont que sur les plages. Et comme c'est un pays à l'infrastructure de route qui est pas forcément très bon, en gros sur une autoroute du Vietnam, en fait, il y en a qu'une, hein, c'est l'autoroute numéro 1. La vitesse maximum à laquelle on peut atteindre, c'est du 50 km/h. Donc pour faire les 2000 km de route du sud au nord. Vous imaginez que quand on est un touriste qui vient pour 15 jours, on n'a pas le temps. On n'a tout simplement pas le temps de visiter le Vietnam dans sa richesse et dans sa diversité. Et donc, en fait, les gens qui sont en mode club bronzette, eh ben, ils sont sur les plages club bronzette. Ces gens-là n'ont pas d'impact littéralement sur les centres culturels. Donc, en quelque sorte, l'avantage, c'est que ceux qui avaient vraiment envie de faire de la randonnée, qui se sont retrouvés au hasard il y a 20 ans d'une cérémonie comme ça, en ont parlé. Ça a fait venir des gens qui avaient un intérêt et ça a fait pression sur le gouvernement pour dire finalement, ça attire des touristes, donc ça attire de l'argent. Ça permet de montrer qu'on est un beau pays accueillant. Et ça a permis justement cette politique culturelle qu'on constate avec ces commandements 2020-2030 qui ont un côté un petit peu figé parce que c'était mis par le Parti communiste, mais qui en fait a un impact, moi je dirais positif, c'est-à-dire que ça a permis d'ouvrir ce pays qui était quand même assez figé, quoi, assez fermé. Une réponse paradoxale, mais bon, pardon.
Oui, cette ouverture du coup de la part des autorités qui semble récente est due à quoi? À un intérêt économique Pourquoi récent, aussi récent quelle est l'origine de ce changement?
Ils sont repartis à zéro après les années communistes qui ont vraiment arrêté la culture, c'est-à-dire que les minorités ont eu le droit à leur gouvernement parlant vietnamien, impliquant une autorité vietnamienne, obligation de parler vietnamien. La seule minorité qui s'est un peu rebellée, ça a été les Thiam, et ils ont obtenu un grand renfort de petites révoltes. La possibilité que le Thiam soit enseigné dans les écoles primaires de leur région, donc les deux régions du Binh Thuan et du Ninh Thuan, et donc les petits-enfants Thiam ont des cours de Thiam à l'école. Aucune des autres minorités actuellement n'a cette possibilité. Donc, ça a été compliqué, ça a été en fait pour les minorités de retrouver une fierté, de retrouver leurs rituels qui ont été interdits pendant des décennies quand même. Hein. Quand j'ai montré tout à l'heure la diapositive où on recherche les rituels anciens même dans la capitale, pour montrer des grandes cérémonies. C'est récent parce que tout avait été mis sous couvercle. Donc, ils redécouvrent en fait, en quelque sorte, leur patrimoine. Avec tout ce qui a été perdu entre-temps. Hein. Moi, les Tiam sur lesquels je travaille ont des traditions de poterie et de tissage qui étaient millénaires. Regardez la poterie, ils en sont au patrimoine en train de mourir. Et le tissage, c'est quasiment pareil, quoi. Et c'est dommage parce que c'est du très très beau tissage. D'ailleurs, vous voyez, il y a une grande tradition dans beaucoup d'ethnies. Hein. Là, c'est des tissages que les femmes font hein, de la mède ici. Bon, là, chez les Tiam, j'aurais dû vous mettre une photo avec des femmes habillées avec un peu de tissage. J'avoue, j'aurais dû le faire. Mais bon, donc en quelque sorte, comme 20 ans avec une. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, 50% de la population a moins de 20 ans quand même. Hein. Donc ça veut dire que 20 ans, c'est une génération. Donc les années communistes, pour en sortir, il a fallu recréer quelque chose. Il y avait des traditions qui se sont perdues, il y avait des tas de choses. Et donc c'est un pays qui se réouvre et qui se redécouvre par la même occasion, je dirais.
Et donc, avec tous ces changements politiques et la colonisation, il y a une importante diaspora. Est-ce que cette diaspora joue un rôle dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine, des patrimoines?
Oui, parce que cette diaspora apporte beaucoup d'argent. Cette diaspora, maintenant, a le droit de revenir, donc apporte des dollars, des euros. Oui, alors pendant longtemps, ils ont été traités de Viet Kieu, c'est-à-dire en gros des gens qui sont partis du pays quand on aurait eu besoin d'eux, donc des lâcheurs. Et puis maintenant, on s'aperçoit que ces gens-là qui sont partis avec une partie de la culture sont revenus avec leur mémoire de la culture. Et donc, en quelque sorte, ils ont aidé à revivifier, à recréer, à refaire que le Vietnam redécouvre, enfin il redécouvre pas sa culture, mais il lui laisse la possibilité de d'évoluer. On est en pleine reconstruction. Hein. Je sais que dans le sud, là, le Ninh Thuan, l'été dernier, on m'a montré avec grande fierté un magnifique musée qui venait d'être construit. Donc on a visité le musée, il y avait 5 pierres. Rien d'autre, quoi. C'était vide, mais vide, quoi. Donc, dans 10 ans, ça sera peut-être beau. Pour l'instant, c'est triste, quoi.
Alors, je vois une question dans le chat de Jade. Avec la colonisation du pays, y a-t-il eu des artefacts du patrimoine vietnamien exportés à l'étranger? Et si oui, y a-t-il une politique du gouvernement pour exiger le retour de ce patrimoine?
Alors, pas comme chez les Khmer, pas comme au Cambodge. Mais il y a un mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, les Français, quand ils ont laissé la plupart des artefacts, donc dans le musée Thiam, c'est resté au Vietnam. Ce qu'ils ont exporté, c'est la salle qu'on voit au musée Guimet à Paris, et puis il y a quelques objets au musée Guimet de Lyon, mais il n'y a pas eu grand-chose, en fait, qui est venu vers la France. Par contre, il y a eu des archives papier. Oui, ça, il y a eu des choses. Quand les Français ont commencé à sentir que ça sentait pas bon, qu'il fallait quitter le pays, en fait, ils ont dupliqué les archives, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une partie d'archives qui est restée au Vietnam et des copies sont venues en France. Mais il y a eu aussi des archives originales qui sont arrivées en France et il y a eu des retours, pas beaucoup, mais ça commence à se faire. Par contre, avec les guerres américaines, il y a eu un certain nombre de pièces qui ont été volées, qui ont disparu. Donc, certaines sont dans les musées. Et là, il y a une politique qui tend à avoir envie de les demander. J'ai vu récemment un appel à rappeler des pièces qui étaient au musée de, je crois que c'est vers San Francisco, quelque chose comme ça. Oui, là, il y a une demande, effectivement, parce que ça a été littéralement pillé et volé, quoi. C'est vrai. Mais il n'y a pas eu tant d'objets que ça qui ont disparu. Enfin, si, il y a des objets qui ont disparu, mais qui ont été bombardés. Moi, j'ai fait sur le terrain des missions pour aller retrouver des sites qui avaient été mentionnés dans par des Français qui partaient en prospection avec des équipes. Et puis, on arrivait, c'était un cratère de bombes, quoi. Ah, il y avait des briques, hein, mais il n'y avait plus rien. Donc là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout, quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question?
Je pense que oui.
Oui.
Puisqu'on constate là un assouplissement quand même des autorités et une volonté de mettre en valeur les cultures de différentes ethnies, quel est le rôle des communautés locales, détentrices de ces patrimoines dans la préservation? Est-ce qu'elles sont impliquées ou est-ce que ça vient vraiment d'en haut? Comment
Alors,
travaillons
pendant
ça?
longtemps, ça venait d'en haut et donc ça n'a pas pris. Et maintenant, ils sont très impliqués, oui. Oui. Maintenant, oui, c'est eux qui veulent absolument montrer ce qui fait leur fierté. Oui. C'est récent, hein, c'est vraiment récent.
Alors, oui, la réponse de Jeanne, oui, vous avez bien répondu à ces questions tout à l'heure. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas maintenant. Sinon, nous allons conclure. Je n'en vois pas d'autres. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On a voilà, découvert une région qu'on connaît peu. C'est très intéressant aussi de comparer avec d'autres pratiques et d'autres politiques. Et
C'est assez
puis.
difficile hein, de présenter un patrimoine extrêmement riche, en fait, mais dans la mesure où il faut tenir compte de la politique officielle et puis après commencer à appliquer dans le contexte et on arrive un peu à comprendre, en fait.
Oui, et puis on est impatient de voir comment ça va évoluer, puisque c'est
Complètement.
le
Pour moi, c'est
changement récent vont impliquer, voilà,
exactement. Parce que vous voyez, entre le musée d'ethnographie ouvert en 97, où vraiment on était sur des désordres littéralement quoi, de ce qu'il fallait et de ce qu'on a vu récemment se mettre en place depuis le musée de 2011, où on a laissé carte blanche à Christine Emmet, on voit bien que c'est en train de se créer, quoi. Bon. Par contre, ils ont du mal parce que les conservateurs ne peuvent pas forcément aller se former à l'étranger. Donc, c'est encore un peu compliqué, mais dans la mesure où les budgets dédiés à la culture augmentent, maintenant, ils peuvent faire venir ou ils peuvent commencer à faire des échanges. Donc, je pense que le meilleur est à venir vraiment, quoi. Il faut être
Alors
très.
justement, juste une dernière question, puisque vous venez de parler de la formation et que nous, on est un établissement de formation justement des conservateurs du patrimoine, qu'en est-il de la formation au Vietnam des professionnels?
Bah, c'est difficile parce que dans la mesure où les conservateurs de musées jusqu'à une époque récente, voire quasi actuelle, étaient nommés par le Parti communiste, on est sur des personnes qui ont une envie de culture, mais qui sont des politiques. Donc, jusqu'à une date extrêmement récente, les conservateurs du musée n'étaient pas des conservateurs. Et c'est souvent les petites mains des musées, donc les gens qui restent, qui, eux, ont cette culture de muséographie, pardon, et qui, eux, sont capables d'essayer, mais on ne les écoute pas parce que c'est une société très hiérarchisée, quoi. Donc, c'est. Vraiment, j'ai vu à Da Nang un vrai conservateur mis en poste il y a 3 ans, 4 ans, pour la première fois. Quelqu'un qui avait des idées, qui avait eu une formation pour comprendre la mise en valeur des pièces, quoi. Avant, c'était le musée de Da Nang, donc qui est un musée à la coloniale très ouvert, puisque bah, il fait fort chaud par là-bas. Et donc, la muséographie, ça consistait à prendre une pièce de sculpture, la bétonner littéralement, c'est-à-dire la mettre dans le ciment pour que personne ne la vole. Et puis voilà. Est-ce qu'elle est mieux éclairée comme ça? Est-ce qu'elle est vraiment mise en valeur avec son contexte dans son époque? Ça, c'était une autre question, quoi. Mais maintenant, on se la pose la question, donc c'est intéressant. Il y a des musées vivants, il y a des, enfin, ils ont fait de très gros progrès. C'est pour ça que le musée de la femme à Hanoï est intéressant dans les prises de vue pour faire de la. Au Vietnam, la jeune génération est très forte en informatique, ce genre de choses. Et donc, dans les musées, les tableaux avec des vidéos, avec des choses interactives, là, ils sont assez forts. Donc, il faut de l'image. Donc, il faut aller voir les peuples dans leur. Dans leur rituel. Et donc, finalement, c'est ça qui permet que ça diffuse mieux et que la culture du Vietnam commence à être mieux connue dans sa pluralité.
Nous allons finir sur cette note. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Pour la suite de notre cycle, eh bien, vous consulterez le site de l'INP. À la rentrée, on publiera notre nouvelle programmation. Merci beaucoup, Madame Schweyer, et à bientôt pour nos auditeurs. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.